Bienvenue dans Négatif, le podcast d'entretien à l'écoute des créateurs et créatrices d'images et de sons. Dans le cadre du Festival de Cannes 2019, nous vous proposons des épisodes spéciaux avec de courts entretiens à propos des films sélectionnés cette année. En partenariat avec la sélection officielle Cannes Classics, nous avons pu nous entretenir notamment avec certains réalisateurs et réalisatrices de films de patrimoine restauré ou de documentaires sur l'histoire du cinéma. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue, je suis Thibaut Elie et aujourd'hui je m'entretiens avec l'un des réalisateurs mis à l'honneur dans la sélection Cannes Classics du Festival de Cannes 2019. Bonjour Ferit Bouguedir.
Bonjour.
Vous êtes aujourd'hui à Cannes pour nous présenter le film documentaire Caméra d'Afrique, 20 ans de cinéma africain, que vous avez réalisé en 1983, qui a été présenté au Festival de Cannes dans la sélection Un certain regard à cette époque et qui aujourd'hui a été restauré. Dans ce film, vous racontez la manière dont toute une génération de réalisateurs et réalisatrices ont, à partir des années 1960, tenté l'aventure de l'image. Souleymane Sembène, Med Ondo, Safi Faye et bien d'autres ont été les pionniers de ce cinéma différent, ce que vous montrez avec de longs entretiens et de nombreux extraits. Une première question, quel regard portez-vous sur la restauration de ce film et sur sa sélection dans le cadre de Cannes Classics ?
Écoutez, je suis très heureux et même très fier que Cannes Classics ait sélectionné Caméra d'Afrique, parce que Caméra d'Afrique n'est pas, entre guillemets, un documentaire comme les autres. C'était un film où on était, moi-même, réalisateur tunisien, j'avais décidé de faire un film sur les réalisateurs africains, que j'avais découvert grâce aux deux festivals, le premier à Carthage, qui était en 66, le premier festival consacré au cinéma africain et arabe, et ensuite le festival de Ouagadougou, le FESPACO, qui a aussi pris la suite. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est... J'ai tourné ce film pendant 10 ans, vraiment avec les mêmes moyens précaires que les cinéastes dont je parlais. Et donc, je suis très fier qu'il soit restauré maintenant, parce que c'était un film tourné de briques et de brocs avec du 16 mm. Les extraits que je prenais des films étaient aussi en 16 mm très souvent. Donc maintenant, pour la première fois, on va voir ce film avec une image haute définition et on va voir vraiment la beauté de ces extraits des premiers films africains et on va voir entendre la parole encore meilleure des cinéastes que j'ai filmés. Et que j'ai filmé pas comme un documentaire classique, un docu-cul comme on dit. Je l'ai filmé vraiment en essayant de faire partager ce que je vivais avec eux, c'est-à-dire la foi et la sincérité, l'idée que après des siècles de colonisation en Afrique, où la caméra leur était interdite, comment, après des siècles de films, enfin un demi-siècle de films, où l'Afrique était un décor exotique, dans les films américains surtout, où on déniait aux habitants d'Afrique leur humanité ou leur dignité, c'était toujours des sauvages, comment, enfin, ces gens sont emparés de cette caméra interdite pour faire entendre la voix de l'Afrique vue enfin par des yeux africains. Donc ce n'était pas un enjeu tout mince, Caméra d'Afrique. C'était pour montrer cette foi que des gens qui prenaient la caméra essayaient, je dirais même, non seulement de faire parler l'Afrique sous tous ses aspects culturels, politiques, économiques, mais même avec l'ambition de l'époque que le cinéma africain allait même créer un homme nouveau, qu'il allait créer un Africain nouveau après la colonisation. Donc c'est un film qui est fait avec à la fois cette passion-là, qui reflète la foi de cette époque des pionniers du cinéma africain, mais sa particularité, c'est qu'il est fait par quelqu'un qui était un d'entre eux, c'est-à-dire moi.
Et c'est pour ça. Vous étiez réalisateur à cette époque.
Oui, j'avais déjà réalisé des films en Tunisie. Et puis, comme tous ces gens-là, ce sont mes amis, en fait, je les côtoyais, mais je partageais aussi leur foi, leurs espoirs. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas un documentaire comme les autres. C'est un documentaire où les gens me parlent à moi, non pas comme un reporter venu d'Europe qui essaie de leur faire parler de leur cinéma, ils auraient eu une distance ou une méfiance, au contraire, c'était fraternel, quoi. J'étais un d'entre eux, et j'allais être celui qui allait porter leur voix et montrer un peu de leur création. Et c'est pour ça que Caméra d'Afrique, même s'il était tourné à quatre bouts de ficelle, c'est un document unique à ce point de vue.
Comment avez-vous rencontré ces réalisateurs ? Vous étiez sur des tournages avec eux ou bien c'était des amis réalisateurs ?
En fait, c'est surtout, moi je dis toujours, le destin m'a mis dans une période historique où j'ai vu tous les films africains et surtout les films des jeunes cinéastes arabes aussi, qui sont nés après les indépendances et qui étaient contrairement très différents des films égyptien, parce que le seul cinéma arabe, c'est le cinéma égyptien, qui faisait des mélodrames ou des films musicaux très copiés sur Hollywood, quoi, sur les films de Fred Astaire. Ça passait dans les cabarets ou les palais de Pacha. Et puis après les décolonisations, de la même façon qu'en Afrique, on a pris le cinéma non plus comme moyen de divertissement, mais comme moyen d'exprimer toutes les réalités politiques, économiques, culturelles. Dans le monde arabe, pareil, après Youssef Chahine, qui est le premier qui a rompu avec le cinéma égyptien classique traditionnel, il y a tout. Donc c'est pour ça qu'en réalité, j'ai fait un deuxième film aussi, qui s'appelle Caméra arabe. Donc Caméra d'Afrique, dont je vous parle aujourd'hui, c'est la première partie d'un film, un diptyque. Le premier, c'est Caméra d'Afrique, deuxième Caméra arabe, parce que tous ces cinéastes, je les ai rencontrés en même temps. Pour répondre à votre question, comme j'ai eu la chance d'être, dès la première session du Festival de Carthage, dont le premier prix a été remporté par Saint Ben Ousmane, par le premier long métrage d'Afrique noire, qui s'appelait La Noire 2, en 1966. Et là, j'ai eu un choc, j'étais scotché, parce que c'est la première fois que je voyais un film africain réalisé par un Africain et qui avait un point de vue radicalement autre que ce que j'avais vu avant. Et donc j'ai rencontré Saint Ben Ousmane cette année-là. Après j'ai rencontré plus tard Souleymane Cissé du Mali, qui a présenté son court-métrage à Carthage aussi, 5 jours d'une vie. J'ai rencontré évidemment Medrondo de Mauritanie. J'ai rencontré Safi Faye, la première femme cinéaste d'Afrique noire. J'ai rencontré Djibril Diop Mambéty, le Sénégalais génial qui a fait Toki Bouki. Donc c'est grâce à ces festivals, et c'est aussi pour ça que j'ai mis 10 ans à faire ce film. C'est parce que moi, je n'avais pas de producteur. Chaque fois que j'allais à un festival, soit à Carthage, soit à Ouagadougou, d'ailleurs, tout ça était très prémédité. Les cinéastes voulaient se rencontrer une fois au nord du Sahara à Carthage et l'année d'après, les années impaires, à Ouagadougou. Et c'est extraordinaire de voir comment ce Sahara qui séparait les cultures du Maghreb et de l'Afrique noire était complètement franchi grâce au cinéma. Et moi, à chaque fois que je pouvais, je me débrouillais un peu de pellicule 16 mm et je faisais mes interviews sur place avec des cinéastes qui, une fois de plus, comme moi-même j'étais un d'entre eux, ils ne me parlaient pas du tout comme quelqu'un qui répondrait à un ethnographe ou un ethnologue.
Vous étiez vraiment de créateur à créateur.
Ah oui, oui. Et surtout, c'est pour ça que Caméra d'Afrique est un film très particulier, parce que c'est un film où je suis à la fois dedans et dehors. Mais comme j'étais aussi longtemps critique de cinéma au journal Jeune Afrique, j'avais la capacité d'analyser aussi les films de mes collègues et aussi même, comme le film a duré 10 ans, d'être capable d'analyser l'évolution de ce cinéma déjà, pour ne pas faire juste un truc comme ça, voilà, il y a tel film et tel réalisateur. Non, je me suis posé des questions sur l'évolution même de la thématique. Comment, par exemple, au début, je vous dis rapidement, les cinéastes sont plutôt modernistes parce qu'ils viennent après les indépendances, donc ils sont contre les traditions rétrogrades comme celle du féticheur, du sorcier à qui on a recours. Donc dans le début du film, vous voyez souvent que les films que je mets au début de Caméra d'Afrique, les réalisateurs se moquent de ce charlatan et montrent que c'est juste un escroc et qu'il faut dépasser ça. Et puis on s'aperçoit dans l'évolution du cinéma africain que le même personnage qu'on voit au début du film, au début de Caméra d'Afrique, s'adresser à un arbre pour invoquer les esprits, et puis un mauvais plaisant qui se met dans l'arbre, qui lui répond, donc lui il est terrorisé, il va se sauver, et après c'est la honte du village, il va se suicider. Et bien quand vous voyez le dernier extrait, l'avant-dernier extrait que j'ai mis, qui est le film Fini de Souleymane Cissé, j'ai mis une scène similaire où l'initié parle à l'arbre et l'arbre lui répond. C'est-à-dire qu'ils ont évolué. Au début, c'était on va rejeter tout ce qui est tradition rétrograde et être moderniste. Et entre-temps, ils se sont dit, ah, il ne faut pas tout jeter la tradition. Au contraire, il faut faire la synthèse entre la modernité et la tradition. Donc, on va prendre en compte la spiritualité africaine. On va prendre en compte les croyances. Et ça, moi, j'étais capable de le faire parce que j'étais critique. Je pouvais voir, eux le faisaient presque inconsciemment. C'est-à-dire qu'ils évoluaient avec le temps, puisque le film, le tournage a duré 10 ans. Et je me suis dit, il faut que je livre aussi aux spectateurs, non seulement l'existence de ce... Et que je fasse partager l'amour et la passion que j'avais pour ces films qui étaient méconnus complètement à l'époque, mais en même temps que je fasse l'effort de faire une réflexion, une analyse pour voir comment ils ont évolué et vers où ils allaient. Donc Caméra d'Afrique, c'est tout ça à la fois, en fait.
Et par rapport à cette évolution, est-ce que vous les confrontiez également, eux, à l'évolution de leur cinéma dans les entretiens que vous meniez avec eux ?
Pas forcément, parce qu'en réalité, les entretiens que j'avais avec eux étaient chaque fois sur ce que chacun d'eux pensait devoir dire ou quel était, selon lui, le rôle du cinéma. Par contre, dans la voix off, que moi-même, après coup, après avoir vu les extraits et analysé, et c'est ma voix off, et non pas leur voix à eux, qui parle de cette évolution. Eux-mêmes, ils ne sont pas du tout auto-analystes de ce qu'ils font, parce que, comme tout créateur, par contre, moi, je me dédoublais, quoi. Je devenais critique de cinéma, et je me disais, tiens, pourquoi ils filmaient ça en 1970, et pourquoi ils filment ça maintenant, dans les années 80, différemment ? Évidemment, c'est subjectif. Et je donnais, moi, mon point de vue sur ce cinéma. Et c'est vrai que, grâce à tout ça, Caméra d'Afrique n'est pas un documentaire. C'est vraiment, on dirait, un film qui est aussi motivé que les cinéastes africains qui le montrent et qui est aussi passionné et qui essaie de refléter cette foi extraordinaire dans le 7e art qu'il y avait dans les tout débuts du cinéma africain, des gens qui ont attendu quand même 70 ans après l'invention du cinéma pour pouvoir prendre la caméra. Et cette foi et cette croyance, elle est dans le film, elle est dans Caméra d'Afrique. Et ça, je suis très heureux de l'avoir capté. Et encore plus heureux que maintenant, grâce à la restauration et Cannes Classique, les gens vont découvrir, au moins dans l'éventail du cinéma mondial que représente Cannes, ce pan qui s'appelle le cinéma africain. Qu'est-ce qui signifie à sa naissance ? Ce n'est pas juste un cinéma décoratif pour dire, voilà, on est un festival exhaustif, puisqu'on a aussi des films africains, on a aussi des films asiatiques, on a aussi des films, je ne sais pas moi, kazakhs. Donc, cette foi, j'espère qu'elle redonnera aussi à des jeunes cinéastes africains qui maintenant sont dans une époque très différente. Quand j'ai fait le Calmar d'Afrique, il n'y avait pas de télévision en Afrique, il n'y avait que le cinéma. Il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas tout ça.
Est-ce que ces films étaient beaucoup vus à l'époque ?
Eh bien non, mais c'est toujours le drame d'ailleurs. C'est que quand, dans Caméra d'Afrique, on explique que les cinéastes africains ils sont privés de tout, d'infrastructures, de laboratoires, de techniques, mais ils sont surtout privés de marché. Parce que les salles de cinéma en Afrique étaient colonisées par les fournisseurs de films occidentaux et que c'est une source de profit très importante pour eux, souvent d'ailleurs des sous-produits du cinéma mondial, hein. Et qu'ils voyaient dans les films africains des concurrents et les salles de cinéma leur étaient fermées. Donc vous voyez dans le film qu'il y a aussi toute cette lutte contre les cinéastes africains pour faire aussi, sur le plan économique, créer un marché commun, unir les plusieurs pays, parce que chaque pays avait trop peu de salles de cinéma. Comment faire un marché commun pour avoir un nombre de salles suffisant ? Puisque pour ceux qui l'oublient, le cinéma... ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup plus que les autres arts, et que donc c'est tributaire de la diffusion. Si vous n'avez pas de marché de diffusion, vous ne récupérez pas l'argent du film, et donc vous n'avez pas d'argent pour faire un second. C'est pour ça que quand on pouvait encore faire des industries dans les années 30, comme l'Égypte, avant que Hollywood n'ait besoin de tous les écrans de la planète pour rentabiliser les films, vous voyez ce qui se passe maintenant, les blockbusters, et si vous allez... La France est le seul pays qui résiste. La France est un pays qui, depuis De Gaulle, qui n'aimait pas les Américains, a fait des lois pour restreindre le pouvoir des Américains. En Allemagne, par exemple, 90% des salles, c'est des films américains. Donc vous voyez que cette histoire de marché, finalement, on rêvait d'en faire un en Afrique pour qu'il y ait une base qui, par les recettes, alimenterait les films. Et ça, on voit dans le film qu'on a créé un marché commun. Malheureusement, tout ça a foiré. Donc ces films qui étaient vus que dans les festivals, c'est pareil, ils continuent maintenant à être que des films de festival. Et donc ces films-là que vous voyez ici à Cannes, en général, ne sont pas vus du tout en Afrique. Et ça, c'est le drame, puisque trois décennies plus tard, on s'aperçoit que toute cette foi et cet espoir que grâce au 7e art, les Africains allaient inventer presque un nouveau cinéma, mais inventer un homme nouveau aussi, aider l'homme africain à se ressourcer, à comprendre l'importance de sa culture alors qu'il était colonisé, il était soumis. Et tout ça, faute d'être vu par les spectateurs, malheureusement, le constat est un peu amer aujourd'hui, c'est que les films africains sont restés des films de festival. Mais je dirais quand même, parce que je suis un éternel optimiste, heureusement. D'ailleurs, je vais vous dire rapidement, et c'est beaucoup grâce à la France, hein. Il y a d'autres pays qui soutiennent le cinéma africain, comme la Hollande, il y a eu les Scandinaves, il y a eu la chaîne télévision Channel 4 anglaise. Mais historiquement, moi je l'explique comme ça, dans la thèse que j'ai faite sur le cinéma africain. Je dis simplement la différence entre les pays africains francophones et les pays africains anglophones, c'est que ceux qui avaient été colonisés par la France, ils ont été colonisés par un pays qui avait fait la Révolution française de 89, et donc... qui avait mis comme devise liberté, égalité, fraternité. Alors c'était quand même contradictoire de dire égalité, fraternité, de coloniser des peuples et de leur prendre leurs matières premières, leurs ressources. Donc la France avait un complexe de culpabilité d'être à la fois 89 et d'être en même temps un colonisateur. Donc la France a beaucoup, peut-être par complexe de culpabilité, beaucoup soutenu la création en Afrique et donc financé techniquement la plupart des films africains. Et la France continue, parce que si on voit par exemple un film comme Timbuktu de Abderrahmane Sissoko, eh ben, il est totalement Sissako, il est produit par la France. Il est produit par Sylvie Piala, la veuve de Maurice Piala. Et d'ailleurs, il est tellement produit par la France qu'il décroche le César du meilleur film français. Les techniciens, qui sont majoritairement tunisiens d'ailleurs, dans ce film Timbuktu, décrochent meilleure musique, meilleure image, meilleur montage et tout ça. Et donc, c'est un film qui est quand même fait par un Africain avec des Africains. Mais sans la France, il n'existerait pas. Si on voit un film comme L'homme qui crie de Tchadien Mahamat Saleh Haroun, qui a été aussi produit par la France, qui a été primé aussi à Cannes. Sans la France, il n'existerait pas. Donc je le dis sans complexe. Je dis heureusement que la France était coupable d'avoir colonisé l'Afrique, puisque pour se faire pardonner, elle a quand même financé la création africaine. Et jusqu'à ce jour où les efforts d'être indépendants économiquement que portaient les scientifiques africains, de ne plus dépendre de la France ou de l'Europe, comme ils sont tombés à l'eau, que tous ces trucs ont échoué, bon, je dis en éternel optimiste, que tous les rêves qui sont dans mon film Caméra d'Afrique n'ont pas été réalisés pour rendre les Africains autonomes dans leur cinéma, mais à quelque chose malheureux. Bon, heureusement que le pays ex-colonisateur qui a soutenu le cinéma africain et qui a permis les merveilles que je monte dans Caméra d'Afrique continue toujours à soutenir le cinéma africain avec d'autres pays européens qui tiennent. Mais c'est un cinéma étrange, le cinéma africain, parce que Tahar Sheria, le fondateur des Journées de Carthage, disait c'est comme des têtes sans corps. Il y a les têtes qui font les films, mais le corps, le marché n'existe pas. Donc les films sont faits par des têtes qui sont soutenues par souvent des apports un peu intérieurs. Par exemple, en Tunisie, on a un fonds d'aide au cinéma tunisien géré par le Centre National du Cinéma, créé depuis peu après la Révolution et par le ministère de la Culture. Mais comme ces fonds sont toujours limités, tous ces films sont coproduits. Si vous regardez les films, là, moi, je viens de voir le film algérien, bon, c'est Papicha, c'est un film totalement français. Donc, à quelque chose, malheur est bon, le cinéma africain survit grâce au festival. Et ce n'est pas une mauvaise chose, parce que je vais vous dire une chose. Les festivals, c'est l'émanation de la cinéphilie. La cinéphilie est une religion qui a été inventée en France. Le fait que le cinéma est un art et qu'il y a un auteur derrière. Ils ont même trouvé que derrière les films policiers d'Hitchcock, il y avait un auteur, il y avait un point de vue. Que derrière les westerns de Hordox, il y avait un point de vue. Eh bien, grâce à cette notion de la cinéphilie, la chance qu'on a, nous, en Afrique ou au Maghreb ou dans les pays arabes, c'est que la cinéphilie est une religion très démocratique. Un vrai cinéphile ne fait pas de différence. Il a la foi que du plus petit village du Burkina Faso ou du Mali va surgir tout de suite l'équivalent d'un géant comme Kurosawa du Japon. Et grâce à cette cinéphilie, les festivals vont soutenir les films de tous les pays, y compris les pays les démunis comme le cinéma africain. Et donc, cette cinéphilie, les points visibles de cet iceberg, ce sont les festivals. Et grâce aux festivals, ces films africains vont quand même être l'expression d'un cinéma africain, sauf ceux, c'est le danger, qui vont être faits sur mesure pour un public occidental, comme le film que je viens de voir là, Papicha de l'Algérienne, où il y a, je m'excuse de le dire, mais tous les clichés qu'on peut attendre d'une femme arabe soumise, victime, qui se bat contre l'intégrisme, l'islamisme. Et c'est presque des films formatés pour les festivals. Mais à part ce défaut que la cinéphilie va créer des attentes et presque dicter des fois aux cinéastes africains, « Ah, nous, on aimerait bien ça, mais avec la magie de votre pays ou avec... » malgré tout, il y a des réalisateurs qui arrivent à survivre grâce à ça. Donc, je dirais, c'est paradoxal pour quelqu'un qui a tellement soutenu l'autonomie du cinéma du continent, ben heureusement que l'ex-colonisateur est toujours là et continue aussi à restaurer, parce que moi, je ne vais pas cracher dans la soupe. C'est grâce au Centre National du Cinéma Français que Caméra d'Afrique, qui parle de ses rêves fous, qui étaient ceux du cinéma africain des débuts, que ce film a été restauré. Et du coup, il va communiquer l'existence des extraits de ces films qui, comme vous l'avez dit, qu'on a envie de voir, et la parole de ces réalisateurs, et rappeler que le 7e art africain, c'était un enjeu extraordinaire. Et donc, encore une fois, regardez, Moi, je suis tunisien. Mon film a été restauré par le Centre national du cinéma français. C'est vrai que le Centre national du cinéma tunisien a aussi communiqué pour demander qu'on le fasse. Mais encore une fois, c'est la cinéphilie française, c'est tout à son honneur, qui continue face aux géants américains qui proposent un modèle culturel unique, le modèle hollywoodien, et qui veut nous imposer ça sur toute la planète. C'est quand même la France qui, quand il y a eu la grande bataille pour la diversité culturelle à l'UNESCO, a milité pour dire non, le cinéma n'est pas un divertissement, c'est une culture. Et donc, on est, heureusement pour nous, on a été colonisé par le pays qui va lutter pour que les expressions différentes de la culture existent. Et donc, je dirais, nous devons naviguer avec tous ces paradoxes, nous. Naviguer entre les cactus du fait de travailler avec des gens qui, effectivement, avaient colonisé le pays, mais qui après, entre guillemets, se sont rachetés en soutenant la création, et qui maintenant refont vivre, grâce à la masterisation de Caméra d'Afrique, refont vivre toute cette épopée de soutenir des cinémas du Sud face au modèle unique hollywoodien.
Eh bien, merci beaucoup, Ferid Bouguezir.
Merci à vous.
On se retrouve bientôt pour de nouveaux entretiens avec des réalisateurs et réalisatrices de films restaurés ou de documentaires sur l'histoire du cinéma à Cannes Classics 2019. Merci.
Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode spécial de Négatif depuis le Festival de Cannes 2019. Vous pouvez nous écouter et nous réécouter sur notre site négatif.co et sur Facebook, YouTube, iTunes ou Spotify.